Chapitre 12. Le prieuré des Jacobins, les deux amis. Le prieuré dont le roi avait fait don à Grandflot pour récompenser ses loyaux services et surtout sa brillante faconde était situé à deux portées de Mousquet à peu près de l'autre côté de la porte Saint-Antoine. C'était alors un quartier fort noblement fréquenté que le quartier de la Porte Saint-Antoine, le roi faisant de nombreuses visites au château de Vincennes, que l'on appelait encore à cette époque le bois de Vincennes. Çà et là, sur la route du donjon, quelques petites maisons de grands seigneurs, avec des jardins charmants et des cours magnifiques, faisaient comme un apanage au château, et bon nombre de rendez-vous s'y donnaient, dont, malgré la manie qu'avait alors le moindre bourgeois de s'occuper des affaires de l'État, nous oserons dire que la politique était soigneusement exclue. Il résultait de ces allées et venues de la cour que la route, toute proportion gardée, avait l'importance qu'ont conquise aujourd'hui les Champs-Élysées. C'était, on en conviendra, une belle position pour le prieuré qui se levait fièrement à droite du chemin de Vincennes. Ce prieuré se composait d'un quadrilatère de bâtiments, enfermant une énorme cour plantée d'arbres, d'un jardin potager situé derrière les bâtiments et d'une foule de dépendances qui donnaient à ce prieuré l'étendue d'un village. 200 religieux jacobins occupaient les dortoirs situés au fond de la cour parallèlement à la route. Sur le devant, quatre belles fenêtres, avec un seul balcon de fer régnant le long de ces quatre fenêtres, donnaient aux appartements du prieuré l'air, le jour et la vie. Semblable à une ville que l'on présume pouvoir être assiégée, le prieuré trouvait en lui toutes ses ressources sur les territoires tributaires de Charonne, de Montreuil et de Saint-Mandé. Ses pâturages engraissaient un troupeau toujours complet de 50 bœufs et de 99 moutons. Les ordres religieux, soit tradition, soit loi écrite, ne pouvaient rien posséder par cent. Un palais particulier abritait aussi 99 porcs d'une espèce particulière qu'élevait avec amour et surtout avec amour-propre un charcutier choisi par Don Modeste lui-même. De ce choix honorable, le charcutier était redevable aux exquises saucisses, aux oreilles farcies et aux boudins à la ciboulette qu'il fournissait autrefois à l'hôtellerie de la Corne d'Abondance. Don Modeste, reconnaissant des bons repas qu'il avait faits autrefois chez maître Bonhomé, acquittait ainsi les dettes de frère Grandflot. Il est inutile de parler des offices et de la cave. L'espalier du prieuré, exposé au levant et au midi, donnait des pêches, des abricots et des raisins incomparables. En outre, des conserves de ces fruits et des pâtes sucrées étaient confectionnées par un certain frère Eusèbe, auteur du fameux rocher de confiture que l'hôtel de ville de Paris avait offert aux deux reines lors du dernier banquet de cérémonie qui avait eu lieu. Quant à la cave, Grandflot l'avait montée lui-même, en démontant toutes celles de Bourgogne, car il avait cette prédilection innée chez tous les véritables buveurs, lesquels prétendent en général que le vin de Bourgogne est le seul qui soit véritablement du vin. C'est au sein de ce prieuré, véritable paradis de paresseux et de gourmands, dans cet appartement somptueux du premier étage dont le balcon donne sur le grand chemin, que nous allons retrouver Grandflot, orné d'un menton de plus et de cette sorte de gravité vénérable que l'habitude constante du repos et du bien-être donne aux physionomies les plus vulgaires. Dans sa robe blanche comme la neige, avec son collet noir qui réchauffe ses larges épaules, Grandflot n'a plus autant de liberté de geste que dans sa robe grise de simple moine, mais il a plus de majesté. Sa main, grosse comme une éclenche, s'appuie sur un incarto qu'elle couvre complètement. Ses deux gros pieds écrasent un chauffe-feu doux et ses bras n'ont plus assez de longueur pour faire une ceinture à son ventre. 7h30 du matin viennent de sonner. Le prieur s'est levé, le dernier, profitant de la règle qui donne au chef une heure de sommeil de plus qu'aux autres moines, mais il continue tranquillement sa nuit dans un grand fauteuil à oreilles moelleux comme un édredon. L'ameublement de la chambre où sommeille le digne abbé est plus mondain que religieux. Une table à pieds tournés est couverte d'un riche tapis, des tableaux de religion galante, singulier mélange d'amour et de dévotion qu'on ne trouve qu'à cette époque-là dans l'art, des vases précieux d'église ou de table sur des dressoirs, aux fenêtres de grands rideaux de brocart vénitien, plus splendides malgré leur vétusté que les plus chères étoffes neuves, voilà le détail des richesses dont était devenu possesseur Don Modeste Goranflot, et cela par la grâce de Dieu, du roi et surtout de Chicot. Donc le prieur dormait sur son fauteuil, tandis que le jour venait lui faire sa visite quotidienne et caressait de ses lueurs argentées les tons purpurins et nacrés du visage du dormeur. La porte de la chambre s'ouvrit doucement et deux moines entrèrent sans réveiller le prieur. Le premier était un homme de 30 à 35 ans, maigre, blême et nerveusement cambré dans sa robe de jacobin. Il portait la tête haute, son regard, décoché comme un trait de ses yeux de faucon, commandait avant même qu'il eût parlé, et cependant ce regard s'adoucissait par le jeu de longues paupières blanches qui faisaient ressortir en s'abaissant le large cercle de bistre dont ses yeux étaient bordés. Mais au contraire, quand brillait cette prunelle noire entre ses sourcils épais et cet encadrement fauve de l'orbite, on eût dit l'éclair qui jaillit des plis de deux nuages de cuivre. Ce moine s'appelait frère Borromée. Il était depuis 3 semaines trésorier du couvent. L'autre était un jeune homme de 17 à 18 ans, aux yeux noirs et vifs, à la mine hardie, au menton saillant, de petite taille mais bien prise, et qui, ayant retroussé ses longues manches, laissait voir avec une sorte d'orgueil deux bras nerveux, prompts à gesticuler. « Le prieur dort encore, frère Borromée, dit le plus jeune des deux moines à l'autre. Le réveillerons-nous ? Gardons-nous-en bien, frère Jacques, répliqua le trésorier. En vérité, c'est dommage d'avoir un prieur qui dorme si longtemps, reprit le jeune frère, car on aurait pu essayer les armes ce matin. Avez-vous remarqué quelles belles cuirasses et quelles arquebuses il y a dans le nombre? Silence, mon frère, vous allez être entendu. Oh, quel malheur, reprit le petit moine en frappant du pied un coup qui fut assourdi par l'épais tapis. Quel malheur! Il fait si beau aujourd'hui, la cour est si sèche. Ah, quel bel exercice on ferait, frère trésorier! Il faut attendre, mon enfant, dit frère Borromée, avec une feinte soumission démentie par le feu de ses regards. Mais que n'ordonnez-vous toujours que l'on distribue les armes? Répliqua impétueusement Jacques en relevant ses manches retombées. Moi, ordonner? Eh oui, vous! Je ne commande pas, vous savez bien, mon frère, reprit Borromée avec componction. Ne voilà-t-il pas le maître là? Sur ce fauteuil, endormi, quand tout le monde veille, dit Jacques d'un ton moins respectueux qu'impatient. Le maître? Et un regard de superbe intelligence sembla vouloir pénétrer jusqu'au fond du cœur de frère Borromée. « Respectons son rang et son sommeil, dit celui-ci en s'avançant au milieu de la chambre, et cela si malheureusement qu'il renversa un escabeau sur le parquet. Bien que le tapis eût amorti le bruit du tabouret, comme il avait amorti celui du coup de talon de frère Jacques, Don Modeste, à ce bruit, fit un bond et s'éveilla. « Qui va là ? » s'écria-t-il de la voix tressaillante d'une sentinelle endormie. « Seigneur prieur, dit le frère Borromée, pardonnez si nous troublons votre pieuse méditation, mais je viens prendre vos ordres. « Ah, bonjour, frère Borromée, fit Goranflot avec un léger signe de tête. » Et puis, après un moment de réflexion, pendant lequel il était évident qu'il venait de tendre toutes les cordes de sa mémoire, « Quels ordres ? » demanda-t-il en clignant 3 ou 4 fois les yeux. « Relativement aux armes et aux armures. »« Aux armes ? Aux armures ? » demanda Goranflot. « Sans doute, votre seigneurie a commandé d'apporter des armes et des armures. »« À qui cela ? » À moi, à vous, j'ai commandé des armes, moi. Sans aucun doute, seigneur prieur, fit Borromée d'une voix égale et ferme. Moi? Répéta Don Modeste au comble de l'étonnement. Moi, et quand cela? Il y a 8 jours. Oh, il y a 8 jours, mais pourquoi faire des armes? Vous m'avez dit, seigneur, et je vais répéter vos propres paroles, vous m'avez dit, frère Borromée, il serait bon de se procurer des armes pour armer nos moines et nos frères. Les exercices de gymnastique développent les forces du corps comme les pieuses exhortations développent celles de l'esprit. J'ai dit cela, fit Gorenflot. Oui, révérend prieur, et moi, frère indigne et obéissant, je me suis hâté d'accomplir vos ordres, et je me suis procuré des armes de guerre. Voilà qui est étrange, murmura Gorenflot, je ne me souviens de rien de tout cela. Vous avez même ajouté, révérend prieur, ce texte latin, Militat spiritu, militat gladio. Oh! s'écria Don Modeste en ouvrant démesurément les yeux. J'ai ajouté ce texte? J'ai la mémoire fidèle, révérend prieur, répondit Borromée en baissant modestement ses paupières. Si je l'ai dit, reprit Gorenflot en secouant doucement la tête de haut en bas, c'est que j'ai eu mes raisons pour le dire, frère Borromée. En effet, cela a été toujours mon opinion qu'il fallait exercer le corps. Quand j'étais simple moine, j'ai combattu de la parole et de l'épée, militat. Spiritu. Très bien, frère Borromée, c'était une inspiration du Seigneur. Je vais donc achever d'exécuter vos ordres, révérend prieur, dit Borromée, en se retirant avec frère Jacques, qui, tout frissonnant de joie, le tirait par le bas de sa robe. Allez, dit majestueusement Gorenflot. Ah, seigneur prieur, reprit frère Borromée en rentrant quelques secondes après sa disparition, j'oubliais. Quoi? Il y a au parloir un ami de votre seigneurie qui demande à vous parler. Comment se nomme-t-il? Maître Robert Briquet. Maître Robert Briquet, reprit Gorenflot, ce n'est point un ami, frère Borromée, c'est une simple connaissance. Alors votre révérence ne le recevra point? Suffit, suffit, dit nonchalamment Gorenflot. Cet homme me distrait, faites-le monter. Frère Borromée salua une seconde fois et sortit. Quant à frère Jacques, il n'avait fait qu'un bond de l'appartement du prieur à la chambre où étaient déposées les armes. 5 minutes après, la porte se rouvrit et Chicot parut. Don Modeste ne quitta point la position béatement inclinée qu'il avait prise. Chicot traversa la chambre pour venir à lui. Seulement, le prieur voulut bien pencher doucement sa tête pour indiquer au nouveau venu qu'il l'apercevait. Chicot ne parut pas un seul instant s'étonner de l'indifférence du prieur. Il continua de marcher, puis, lorsqu'il fut à une distance respectueusement mesurée, il le salua. Bonjour, monsieur le prieur, dit-il. Ah, vous voici, dit Gorenflot, vous ressuscitez, à ce qu'il paraît. Est-ce que vous m'avez cru mort, monsieur le prieur? Dame, on ne vous voyait plus. J'avais affaire. Ah! Chicot savait qu'à moins d'être échauffé par 2 ou 3 bouteilles de vieux Bourgogne, Gorenflot était avare de paroles. Or, comme selon toute probabilité, vu l'heure peu avancée de la journée, Gorenflot était encore à jeun, il prit un bon fauteuil et s'installa silencieusement au coin de la cheminée, en étendant ses pieds sur les chenets et en appuyant ses reins au dossier moelleux. Est-ce que vous déjeunerez avec moi, monsieur Briquet? Demanda Don Modeste. Peut-être, seigneur prieur. Il ne faudrait pas m'en vouloir, monsieur Briquet, s'il me devenait impossible de vous donner tout le temps que je voudrais. Et qui diable vous demande votre temps, monsieur le prieur? Ventre de biche, je ne vous demandais même pas à déjeuner, c'est vous qui me l'avez offert. Assurément, monsieur Briquet, fit Don Modeste, avec une inquiétude que justifiait le ton assez ferme de Chicot. Oui, sans doute, je vous ai offert, mais Mais vous avez cru que je n'accepterais pas. Oh non, est-ce que c'est mon habitude d'être politique, dites monsieur Briquet. On prend toutes les habitudes que l'on veut prendre quand on est un homme de votre supériorité, monsieur le prieur, répondit Chicot avec un de ces sourires qui n'appartenaient qu'à lui. Don Modeste regarda Chicot en clignant des yeux. Il lui était impossible de deviner si Chicot raillait ou parlait sérieusement. Chicot s'était levé. « Pourquoi vous levez-vous, monsieur Briquet ?» demanda Gorenflot. « Parce que je m'en vais. »« Et pourquoi vous en allez-vous, puisque vous aviez dit que vous déjeuneriez avec moi ?»«
Je n'ai pas dit que je déjeunerai avec vous, d'abord. »«
Pardon, je vous ai offert. » Et j'ai répondu « Peut-être, peut-être ne veut pas dire oui. »«
Vous vous fâchez ?»
Chicot se mit à rire. « Moi, me fâcher, dit-il, et de quoi me fâcherais-je? De ce que vous êtes impudent, ignare et grossier? Oh, cher seigneur prieur, je vous connais depuis trop longtemps pour me fâcher de vos petites imperfections. »
Gorenflot, foudroyé par cette sortie de son hôte, demeura la bouche ouverte et les bras étendus.
« Adieu, monsieur le prieur, continua Chicot. « Oh, ne partez pas !»
Mon voyage ne peut se retarder.
Vous voyagez?
J'ai une mission.
Et de qui?
Du roi.
Gorenflot roulait d'abîmes en abîmes.
Une mission, dit-il, une mission du roi? Vous l'avez donc revue?
Et sans doute.
Et comment vous a-t-il reçu?
Avec enthousiasme. Il a de la mémoire, lui, tout roi qu'il est.
« Mission du roi, balbutia Gorenflot, et moi impudent, moi ignare, moi grossier. »
Son cœur se dégonflait à mesure, comme fait un ballon qui perd son vent par des piqûres d'aiguilles.
« Adieu, répéta Chicot. » Gorenflot se souleva sur son fauteuil et de sa large main arrêta le fugitif qui, avouons-le, se laissa facilement violenter.
« Voyons, expliquons-nous, » dit le prieur.
« Sur quoi ?» demanda Chicot.
« Sur votre susceptibilité d'aujourd'hui. »«
Moi, je suis aujourd'hui comme toujours. »«
Non. »«
Simple miroir des gens avec qui je suis. »«
Non. » »«
Vous riez et je ris. »«
Vous boudez, je fais la grimace. »«
Non, non, non. »«
Si, si, si. »«
Eh bien, voyons, je l'avoue, j'étais préoccupé. »
« Vraiment ?
Ne voulez-vous point être indulgent pour un homme en proie aux plus pénibles travaux ? Ai-je ma tête à moi, mon Dieu ? Ce prieuré n'est-il pas comme un gouvernement de province ? Songez donc que je commande à 200 hommes, que je suis tout à la fois économe, architecte, intendant, et tout cela sans compter mes fonctions spirituelles. »
Oh, « c'est trop, en effet, pour un serviteur indigne de Dieu. »«
Oh, voilà qui est ironique, » dit Gorenflot. « Monsieur Briquet, auriez-vous donc perdu votre charité chrétienne ?»«
J'en avais donc. »«
Ah, je crois aussi qu'il entre de l'envie dans votre fait. Prenez-y garde, l'envie est un péché capital. »
« De l'envie dans mon fait, et que puis-je envier, moi, je vous le demande ?»
Vous vous dites, le prieur Don Modeste Gorenflot monte progressivement, il est sur la ligne ascendante.
Tandis que moi, je suis sur la ligne descendante, n'est-ce pas ? Répondit ironiquement Chicot.
C'est la faute de votre fausse position, monsieur Briquet.
Monsieur le prieur, souvenez-vous du texte de l'Évangile.
Quel texte ?
« Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. »«
Oh !» fit Gorenflot.
« Allons, voilà qu'il met en doute les textes saints, l'hérétique !» s'écria Chicot en joignant les deux mains.
« Hérétique ?» répéta Gorenflot. « Ce sont les huguenots qui sont hérétiques. »«
Schismatique, alors. »«
Voyons, que voulez-vous dire, monsieur Briquet ? En vérité, vous m'éblouissez. »
Rien, sinon que je pars pour un voyage et que je venais vous faire mes adieux.
Donc adieu, seigneur Don Modeste.
Vous ne me quitterez pas ainsi.
Si fait, par Dieu.
Vous?
Oui, moi.
Un ami.
Dans la grandeur, on n'a plus d'amis.
Vous, Chicot? Je ne suis plus Chicot, vous me l'avez reproché tout à l'heure. Moi, quand cela? Quand vous avez parlé de ma fausse position. Reproché, ah, quel mot vous avez aujourd'hui! Et le prieur baissa sa grosse tête, dont les trois mentons s'aplatirent en un seul contre son cou de taureau. Chicot l'observait du coin de l'œil et le vit légèrement pâlir. « Adieu, et sans rancune pour les vérités que je vous ai dites. » Et il fit un mouvement pour sortir. « Dites-moi tout ce que vous voudrez, monsieur Chicot, » fit Don Modeste, « mais n'ayez plus de ces regards-là pour moi. » « Ah, il est un peu tard. »« Jamais trop tard. Et tenez, on ne part pas sans manger, que diable. Ce n'est pas sain, vous me l'avez dit 20 fois vous-même. Eh bien, déjeunons. » Chicot était décidé à reprendre tous ses avantages d'un seul coup. « Ma foi, non, dit-il, on mange trop mal ici. » Gorenflot avait supporté les autres atteintes avec courage. Il succomba sous celle-ci.
« On mange mal chez moi ? » balbutia-t-il éperdu.
« C'est mon avis, du moins, dit Chicot. Vous avez eu à vous plaindre de votre dernier dîner ? Oh, j'en ai encore l'atroce saveur au palais. Pouah !
Vous avez fait pouah ? » s'écria Gorenflot en levant les bras au ciel.
« Oui, dit résolument Chicot, j'ai fait pouah.
Mais à quel propos parler ?
Les côtelettes de porc étaient indignement brûlées.
Oh, oh, oh.
Les oreilles farcies ne croquaient pas sous la dent.
Oh, oh, oh.
Le chapon au riz ne sentait que l'eau.
Juste ciel !
La bisque n'était pas dégraissée.
Miséricorde !
On voyait sur les coulis une huile qui nage encore dans mon estomac.
Chicot, Chicot,
soupira Don Modeste, du même ton dont César expirant dit à son assassin, Brutus, Brutus. Et puis, vous n'avez pas de temps à me donner.
Moi ?
Vous m'avez dit que vous aviez affaire. Me l'avez-vous dit, oui ou non ? Il ne vous manquait plus que de devenir menteur.
Eh bien, cette affaire, on peut la remettre. C'est une solliciteuse à recevoir, voilà tout.
Recevez-la donc.
Non, non, mon cher Chicot.
Quoiqu'elle m'ait envoyé 100 bouteilles de vin de Sicile.
100 bouteilles de vin de Sicile ?
Je ne la recevrai pas, quoique ce soit probablement une très grande dame. Je ne la recevrai pas. Je ne veux recevoir que vous, mon cher Chicot. Elle voulait devenir ma pénitente, cette grande dame qui envoie les bouteilles de vin de Sicile par centaines. Eh bien, si vous l'exigez, je lui refuserai mes conseils spirituels. Je lui ferai dire de prendre un autre directeur.
Et vous ferez tout cela?
Oh, pour déjeuner avec vous, cher monsieur Chicot, pour réparer mes torts envers vous.
Mes torts viennent de votre féroce orgueil, Don Modeste.
Je m'humilierai, mon ami, de votre indolente paresse.
Oh, Chicot, Chicot, à partir de demain, je me mortifie en faisant faire tous les jours l'exercice à mes moines.
À vos moines, l'exercice, fit Chicot, en ouvrant les yeux, et quel exercice? Celui de la fourchette?
Non, celui des armes.
L'exercice des armes?
Oui, et cependant, c'est fatigant de commander.
Vous commandez l'exercice aux Jacobins?
Je veux le commander, du moins.
À partir de demain?
À partir d'aujourd'hui, si vous l'exigez.
Et qui donc a eu cette idée de faire faire l'exercice à des frocards ?
Moi, à ce qu'il paraît, dit Gorenflot.
Vous, impossible.
C'est fait, j'en ai donné l'ordre à frère Borromée.
Qu'est-ce encore que ce frère Borromée ?
Ah, c'est vrai, vous ne le connaissez pas.
Qu'est-il ?
C'est le trésorier.
Comment as-tu un trésorier que je ne connaisse pas, Bélitre ?
Il est ici depuis votre dernière visite.
Et d'où te vient ce trésorier?
Monsieur le cardinal de Guise me l'a recommandé.
En personne?
Par lettre, cher monsieur Chicot, par lettre.
Serait-ce cette figure de Milan que j'ai vue en bas?
C'est cela même qui m'a annoncé?
Oui.
Oh, fit involontairement Chicot. Et quelle qualité a-t-il, ce trésorier, si chaudement appuyé par monsieur le cardinal de Guise?
Oh, il compte comme Pythagore.
Et c'est avec lui que vous avez décidé ces exercices d'armes?
Oui, mon ami.
C'est-à-dire que c'est lui qui vous a proposé d'armer vos moines, n'est-ce pas?
Oh, non, cher monsieur Chicot, l'idée est de moi, entièrement de moi.
Et dans quel but?
Dans le but de les armer.
Un pas d'orgueil, pécheur endurci. L'orgueil est un péché capital. Ce n'est point à vous qu'est venue cette idée.
À moi ou à lui, je ne sais plus bien si c'est à lui ou à moi que cette idée est venue.
Non, décidément, c'est à moi. Il paraît même qu'à cette occasion, j'ai prononcé un mot latin très judicieux et très brillant.
Chicot se rapprocha du prieur.
Un mot latin, vous, mon cher prieur, dit Chicot, et vous le rappelez-vous, ce mot latin?
Militat spiritu.
Militat spiritu, militat gladio.
Ah, c'est cela, s'écria Don Modeste avec enthousiasme.
Allons, dit Chicot, il est impossible de s'excuser de meilleure grâce que vous ne le faites, Don Modeste, je vous pardonne.
« Oh !» fit Gorenflot avec attendrissement.
« Vous êtes toujours mon ami, mon véritable ami. »
Gorenflot essuya une larme.
« Mais déjeunons et je serai indulgent pour le déjeuner.
Ah, »« Écoutez, » dit Gorenflot avec enthousiasme, « je vais faire dire au frère cuisinier que si sa chair n'est pas royale, je le fais fourrer au cachot. »
Faites, dit Chicot, vous êtes le maître, mon cher prieur.
Et nous décoifferons quelques-unes de ces bouteilles de la pénitente.
Je vous aiderai de mes lumières, mon ami.
Ah, que je vous embrasse, Chicot.
Ne m'étouffez pas, et causons.